Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez juste après VibraSOS Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur l'antenne de Graphite, donc 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir télécharger tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, sur le site graphite.net. Et puis, vous suivez, bien sûr, l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de l'actualité de votre radio préférée, curieuse, évidemment. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars. Alors, au niveau de l'éphéméride, alors, si j'arrive pas à prendre ma feuille, je vais pas y arriver. Nous sommes au niveau du 9 mars pour l'éphéméride en sciences et techniques. Eh bien, c'était un 9 mars 1911 que la France abandonne le méridien de Paris pour celui du méridien de Greenwich. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse une recherche pour essayer de comprendre pourquoi la France abandonne le méridien de Paris. J'essaierai de regarder et j'aurai peut-être la réponse tout à l'heure. En 2015, l'avion solaire Solar Impulse décolle d'Abu Dhabi pour un tour du monde sans carburant. C'était en 2015 déjà. Franchement, ça, je pensais que c'était plus récent en fait. Et non, c'était en 2015. Naissance, le 9 mars 1818, d'Henri Deville, chimiste français connu principalement pour ses travaux sur l'aluminium. En fait, il réalise la première production industrielle d'aluminium dans une usine à Paris. Les travaux sont financés par l'empereur Napoléon III. Nous sommes en 1854. Les premiers lingots seront utilisés, notamment pour l'exposition universelle de 1855. Henri Deville, chimiste français. Décès le 9 mars 1983 de Ulf Svant von Euler, neurophysiologiste suédois. Il a reçu un prix Nobel, notamment en 1970, pour ses travaux sur les neurotransmetteurs. Voilà, suédois. C'est pas souvent qu'on parle de la Suède dans cette émission, je constate. Et donc là, c'est à l'occasion de cette éphéméride. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, ça va pas être simple pour l'émission. C'est pas souvent qu'on parle de la Suède, et donc là, avec cette éphéméride, et notamment ce neurophysiologiste suédois, Ulf Svant von Euler, eh bien, ça nous permet un peu de parler de la Suède dans cette émission. C'est vrai que c'est pas courant, et ça arrive de temps en temps. Pas mal d'actualités scientifiques que nous allons développer dans cette émission de Biotine. Et sur un petit peu près tous les sujets, en fait. Il n'y a pas de thématique qui va être un peu prédominante. Pardon, ça va être pas facile. Et je voulais parler un petit peu de ce squelette quasi complet de titanosaure qui a été découvert par un jeune paléontologue amateur dans le sud de la France. C'est en 2022 qu'un habitant du coin, un jeune passionné de paléontologie, tombe par hasard sur un os mis à découvert lors de l'éboulement d'un bord de falaise. Enfin, pas tout à fait par hasard, parce que Damien Boccetto est en effet membre de l'association culturelle, archéologique et paléontologique de Crouzy depuis plusieurs années. Et il connaît bien la région et son potentiel paléontologique. Il dit « Quand je vais me promener, j'en profite pour aller dans des coins où je sais qu'on peut trouver des choses intéressantes. » Et donc c'est dans cette zone où des couches sédimentaires du Crétacé supérieur affleurent qu'il décide de faire sa petite promenade matinale. Alors il explique toujours « C'est un coin qui n'avait pas été fouillé depuis longtemps et j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil. » C'est une décision qui est a priori anodine, qui pourrait pourtant avoir chamboulé son avenir professionnel. Depuis le sentier qu'il arpente, Damien se rend compte qu'un flanc de falaise s'est récemment effondré. Or, ce type d'affleurement frais est une aubaine et le jeune paléontologue amateur ne peut résister à l'envie de fouiller, bien sûr, rapidement les débris. Et son œil entraîné, hein, ce qui fait partie quand même d'une association culturelle, eh bien, il reconnaît rapidement la forme d'un os et pas n'importe lequel, celui d'un dinosaure de grande taille. Alors en soi, c'est pas nécessairement une surprise, hein. La région rengorge en effet de fossiles de ce genre. Plus d'une vingtaine d'espèces ont déjà été découvertes à ce jour, datant toutes de la fin du Crétacé, c'est-à-dire à peu près 70 millions d'années environ. Et pourtant, le jeune paléontologue amateur et les autres membres de l'association qui se rendent rapidement sur les lieux réalisent qu'il s'agit bien d'une trouvaille majeure. Les premières fouilles révèlent que ce ne sont pas simplement quelques ossements qui sont présents, mais un squelette quasiment complet de titanosaures, ces grands sauropodes herbivores qui pouvaient mesurer plus de 5 mètres de haut et jusqu'à 30 mètres de long en fonction des espèces. C'est quand même pas anodin. D'après les premières estimations, le spécimen retrouvé devrait mesurer environ une vingtaine de mètres. Mais la véritable nouveauté, c'est que les os du squelette ont été retrouvés en connexion, c'est-à-dire en position anatomique et pas de façon dispersée, comme c'est en général le cas. C'est la première fois que l'on fait une telle découverte au niveau régional et même national. C'est extrêmement rare. Cela indique que l'animal a été enfoui très rapidement après sa mort, évitant ainsi que les os ne soient dispersés, notamment par des charognards comme des crocodiles par exemple. Alors pour l'instant, il nous manque les membres et l'avant de la tête, et certaines marques suggèrent que le cadavre a bien servi de festin pour des crocodiles, mais le corps a certainement été recouvert très rapidement. Il y a d'autres restes présents sur le site qui suggèrent en effet que le corps du titanosaure et le corps d'autres dinosaures ont été transportés lors de grosses crues et rapidement recouverts de sédiments, notamment en raison de ces crues. Et ça forme aujourd'hui une espèce de gangue de grès dur autour du squelette. C'est ce qui explique pourquoi la découverte a été tenue secrète pendant si longtemps, parce que extraire les ossements à partir du grès, c'est pas vraiment facile. L'équipe voulait éviter que le précieux trésor paléontologique ne soit pillé ou détérioré, volontairement ou pas d'ailleurs. Enfin, les dernières parties titanesques ont été transportées par grue et camion jusqu'au musée de Cruzy, où ils pourront désormais être étudiés. Donc c'est une nouvelle aventure à laquelle va bien sûr participer ce fameux Damien Boccetto, qui en profite pour se plonger corps et âme dans la paléontologie en suivant désormais un master dans ce domaine. Donc il a trouvé sa vocation et c'est tant mieux. Le but est maintenant de savoir de quelle espèce de titanosaure il s'agit exactement, si c'est un jeune ou un adulte, mais aussi de comprendre l'environnement dans lequel ce dinosaure a vécu, car le site présente de nombreux restes fossiles qui devraient permettre de reconstruire tout un écosystème de la fin du Crétacé. Donc voilà, on a donc découvert un squelette quasi complet de titanosaure dans le sud de la France. Bravo Damien Boccetto, il a trouvé sa voie et il a trouvé ce squelette. Et c'est tant mieux pour lui. Autre actualité, plutôt au niveau médical, il y a quelques études qui permettent d'avoir quelques idées sur l'activité physique que l'on pourrait faire, et notamment le week-end. C'est une bonne nouvelle pour ce qu'on appelle les coureurs du dimanche. Pratiquer une activité physique en un ou deux jours par semaine suffirait à perdre du poids à condition d'atteindre les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Il est recommandé aux adultes de pratiquer au moins 75 minutes par semaine d'activité physique intense, 150 minutes par semaine d'activité physique modérée ou une combinaison équivalente de ces deux intensités. Alors, l'étude, elle a été publiée dans la revue Obesity. Elle a combiné les données de plus de 9600 participants américains à cette enquête nationale sur la santé et la nutrition pendant la décennie 2010 sur plusieurs années. Donc c'est quand même un panel assez important et c'est ça qui est intéressant. On a donc calculé la masse de graisse corporelle abdominale et générale. Tout ça a été évalué par un scanner de composition corporelle non invasif et par des mesures anthropométriques. Les niveaux d'activité physique recueillis par des questionnaires ont été classés en trois catégories: les inactifs, l'actif régulier, c'est-à-dire plusieurs fois dans la semaine, et ces fameux guerriers du week-end ou coureurs du dimanche. Et en fait, ces derniers étaient adeptes d'escalade, de randonnée, de cyclisme, voire de course à pied. Et donc par rapport aux 5500 participants inactifs, les groupes de guerriers du week-end, c'est comme ça qu'on va les appeler, qui représentent près de 800 personnes, et ceux qu'on va appeler les actifs réguliers, donc ceux qui pratiquent plusieurs fois dans la semaine un exercice physique assez, j'allais dire pas intense, mais enfin en tout cas assez soutenu, eh bien ils présentaient une adiposité abdominale, un tour de taille, une masse grasse du corps entier et un indice de masse corporelle plus faible. Donc ce qui est intéressant, c'est que quelque part, que vous fassiez du sport très régulièrement dans la semaine ou que vous concentriez tout ça pendant le week-end, donnerait à peu près les mêmes résultats. D'un point de vue général, cette étude réaffirme le vieil adage concernant l'activité physique et la santé. Toute activité est préférable à l'absence d'activité. Notamment, l'entraînement des guerriers du week-end était d'une intensité plus élevée et d'une durée plus longue, et cela était en corrélation avec un taux de graisse abdominale pyramidale encore plus faible. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens devraient être actifs de la manière qui convient à leur mode de vie. C'est ce qu'a déclaré le responsable de l'étude. Les travailleurs qui n'ont pas le temps de pratiquer une activité physique au quotidien pourraient ainsi compenser leur retard pendant le week-end. Alors ça peut être intéressant, bien évidemment, parce que c'est peut-être un petit peu plus simple selon le mode de vie des personnes, bien évidemment. Mais cette étude, voilà, donne un point de vue assez nouveau sur cette concentration de l'activité physique sur le week-end qui serait efficace pour perdre du poids. Eh bien, écoutez, on constate, on prend note, et comme nous sommes samedi, on va, en même temps qu'écouter Biotine, faire notre petit footing, bien évidemment. Et puis d'écouter un petit peu de musique avec Angel Olsen sur l'antenne de Graphite. Thank you. Qu'est-ce que c'est agréable. On danserait comme ça, là. On arrête de déjeuner, de préparer à manger, de faire ses devoirs. On danse ensemble avec Angel Olsen sur l'antenne de graphite. Ça m'a troublé, cette chanson. Ce titre qui s'appelle Nothing's Free sur l'antenne de graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et je vous propose peut-être de participer à cette étude de la NASA qui cherche des volontaires. On est bien encore loin d'une mission habitée sur Mars et encore plus loin d'un séjour humain prolongé sur cette planète. Mais la NASA continue de se préparer en vue de ces défis futurs. Cette préparation est d'autant plus justifiée si l'on considère que le programme Artemis de la NASA vise non seulement à établir une présence durable de l'homme sur la Lune, mais aussi à programmer une première mission habitée vers Mars, peut-être dans les années 2040. 2040, c'est demain en fait, ça va être très rapide. Et quoi de mieux qu'une simulation sur Terre d'une mission habitée sur Mars ? Il s'agit là d'un moyen essentiel afin de mettre en condition au mieux les futurs explorateurs martiens et tester tous les aspects d'une telle entreprise avant de se lancer dans l'aventure réelle. Alors cet exercice présente plusieurs avantages, notamment en ce qui concerne l'entraînement des astronautes, les tests des technologies et des systèmes de support de vie, l'étude du comportement humain en isolement, ainsi que le développement de protocoles de communication et de collaboration. Le but est aussi de sensibiliser le grand public et l'intéresser à l'exploration humaine. Aux États-Unis, ce dernier point est quand même crucial car il peut influencer le financement du programme spatial. Alors, même si la simulation est un outil précieux pour préparer une mission sur Mars, certains aspects importants ne peuvent pas être reproduits. C'est notamment le cas, bien sûr, de la pesanteur et des risques qu'elle pose sur la santé et la condition physique des astronautes. De plus, sur le plan psychologique, les volontaires participant à ces simulations, ils savent qu'ils ne courent pas de vrais dangers réels, tandis que les astronautes en route vers la planète rouge seront pleinement conscients des nombreuses éventualités risquées auxquelles ils seront confrontés, mettant bien sûr leur vie en péril. Enfin, l'inconnu majeur réside dans la réaction des astronautes à mesure qu'ils s'éloigneront progressivement de la Terre jusqu'à ne plus la distinguer du tout. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Dans ce contexte, la NASA a donc lancé un projet qui s'appelle CHIPPY, qui comporte trois simulations de longue durée, trois simulations qui durent un an chacune. L'idée, c'est de recueillir des données essentielles en vue des futures missions habitées sur Mars. Alors la première, elle est en cours. Elle a commencé en juillet 2023, on en avait parlé dans cette émission. La NASA recherche désormais quatre nouveaux candidats pour la deuxième session qui est prévue pour démarrer au printemps 2025, donc l'année prochaine. Alors en résumé, reproduire sur Terre une mission habitée sur Mars est un moyen essentiel de se préparer, de tester tous les aspects avant, bien sûr, de se lancer dans une aventure réelle. Chaque simulation donc, de ce projet CHIPPY, selon la NASA, contraint un équipage de 4 personnes à vivre et travailler à l'intérieur d'un habitat qui va être imprimé en 3D, qui aura une surface de 160 mètres carrés et qui sera situé au centre spatial Johnson de la NASA, c'est à Houston. Cet habitat simule les défis d'une vie sur Mars, tels que, par exemple, les contraintes en ressources, les pannes techniques, les retards de communication et aussi d'autres facteurs de stress, des facteurs de stress environnementaux et des facteurs de stress psychologiques. Seuls les citoyens américains et les résidents permanents aux États-Unis peuvent postuler. Donc, moi je ne peux pas, mais peut-être que parmi nos auditeurs, nous avons des citoyens américains qui peuvent postuler. Et si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez visiter le site du projet CHIPPY, donc de la NASA, qui cherche des volontaires pour tester la vie sur Mars dans une simulation totalement unique et inédite. Et donc, si vous participez à ce projet, eh bien, vous nous en parlez, parce que ce sera intéressant d'avoir des témoignages, bien sûr. Autre information concernant ce mystère que personne n'arrive encore à expliquer avec certitude. Une partie de l'Afrique tropicale émet des quantités astronomiques de dioxyde de carbone, alors même que la zone en question, elle est très peu urbanisée. Et si cette région qui est située entre l'Éthiopie et le Soudan était un pays, eh bien, on considérait que ce serait le deuxième plus grand émetteur mondial de carbone, juste derrière la Chine. Des scientifiques ont utilisé des mesures satellites, mais aussi des capteurs à bord d'avions pour tenter de comprendre comment une zone essentiellement composée de savane pouvait polluer autant. Cette région est pourtant un important puits de carbone qui absorbe le dioxyde de carbone en grande quantité lors de la saison humide, grâce bien sûr à la croissance des plantes. Mais lors de la saison sèche, des quantités anormalement élevées de carbone sont libérées. Et l'origine de ces émissions de carbone fait encore débat dans la communauté scientifique. Et les différentes études qui ont été lancées ne sont pas d'accord entre elles. On a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Le carbone provient des feux de végétation, mais les forêts sont peu nombreuses dans cette zone et la végétation est plutôt rase. Une partie, l'autre hypothèse, c'est qu'une partie de ce carbone est transportée dans l'atmosphère de l'Afrique par de grands courants, mais proviendrait d'autres pays. Bon, pourquoi pas. Et troisième hypothèse, les terres qui ont séquestré beaucoup de carbone grâce à la végétation sont dégradées par les humains et relâchent toute cette pollution dans l'air. On n'est pas totalement convaincu par la pertinence de ces trois hypothèses et on ne sait pas du tout en fait quelle est la raison de ces émissions de dioxyde de carbone dans cette région sauvage d'Afrique. Le mystère reste entier encore à ce jour et le manque de stations météo dans cette zone d'Afrique complique les recherches. Mais voilà, on se pose la question, on n'a toujours pas de réponse sur cette région qui est le deuxième plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde. C'est quand même assez étonnant et on n'en sait absolument rien. C'est voilà, c'est on essaiera peut-être de d'en savoir plus et on suivra avec attention les investigations qui seront menées pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Niveau médecine, avec cette étude concernant le tabac qui perturbe longtemps le système immunitaire, chaque individu possède son propre système immunitaire qui diffère en matière d'efficacité de réponse aux attaques des microbes. Certains facteurs comme l'âge, le sexe, la génétique, eh bien tout ça c'est connu pour impacter le fonctionnement du système immunitaire. Et pour la première fois, des chercheurs montrent les effets du tabagisme sur l'immunité à long terme. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature qui suggère que même après avoir arrêté de fumer jusqu'à 15 ans après d'ailleurs, les anciens fumeurs conservent des effets sur certains mécanismes de défense de leur organisme acquis pendant qu'ils fumaient. Et on a donc fait une étude sur 1000 volontaires en bonne santé âgés de 20 à 70 ans. Sur ces volontaires, eh bien, les scientifiques ont étudié l'exposition d'échantillons de sang à une grande variété de microbes et ils ont ensuite mesuré les niveaux de cytokines qui sont sécrétés. En fait, ça donne une information sur la réponse immunitaire des participants. L'étude a étudié plusieurs variables, notamment donc le tabagisme, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice physique, l'environnement de vie, afin donc d'avoir des informations un petit peu plus détaillées, un peu plus précises. Et finalement, on se rend compte que l'un des facteurs majeurs concernant, un impact sur l'immunité serait bien le tabagisme, notamment, serait l'un des facteurs. Les chercheurs expliquent que cet impact à long terme du tabagisme, parce que c'est ça qui est important dans cet article, c'est qu'on est vraiment sur des personnes qui ont arrêté de fumer depuis plusieurs années, et bien cet impact à long terme du tabagisme sur l'immunité est lié à des changements épigénétiques dans la méthylation de l'ADN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça modifie l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme des cellules immunitaires et donc ça a un impact direct sur le système de défense de l'organisme. Ces résultats ont des implications cliniques potentielles pour le risque de développer des infections, des cancers ou des maladies auto-immunes. C'est ce qu'expliquent les auteurs de cette étude qui a été publiée dans la revue Nature. Donc voilà, le tabac perturbe longtemps le système immunitaire. Et c'est une recherche assez nouvelle, en tout cas. On a voilà, un premier élément avec cette étude sur les impacts et les conséquences du tabagisme. Quelque part, on s'en doutait peut-être, mais en tout cas, là, la science apporte une réponse un petit peu plus concrète, bien évidemment. Allez, on continue à écouter un peu de musique et à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. C'était Highton sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis matin pour la rediffusion à 10h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis très heureux d'animer cette émission tous les samedis avec vous parce que le fait de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des laboratoires de recherche, dans tous les domaines scientifiques d'ailleurs, nous explique un petit peu ce qui nous attend dans notre futur. Et on parle dans cette émission de tous les sujets sujet scientifique et technique. Et là, médical, il y a pas mal d'informations au niveau médical qui sortent. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous donne quelques informations avec ces articles qui paraissent sur des sites internet Futura Science et toutes les revues aussi d'actualité, de vulgarisation scientifique qui permettent de vous tenir informés sur ces sujets-là, notamment cette étude sur le groupe sanguin qui pourrait jouer un rôle bien plus important qu'on ne le pensait sur l'état de santé. On ne parle pas de régime adapté au rhésus, mais bien de la propension à développer ou non certaines maladies. On sait bien sûr qu'on utilise les lettres A, B, AB et O pour représenter les différentes formes du gène ABO qui programme les cellules sanguines pour former donc les divers groupes sanguins. Le groupe sanguin AB, par exemple, signifie que le corps est programmé pour produire les antigènes A et B sur les globules rouges. La détermination du facteur rhésus, il y a les plus et les moins, dépend quant à elle de la présence ou de l'absence d'une protéine appelée antigène D à la surface des globules rouges. Si cette protéine est présente, le rhésus du sang est positif. S'il est absent, il est négatif. Alors, on savait déjà que les protéines présentes dans le sang des groupes A, B et AB pouvaient provoquer un blocage ou un épaississement du sang dans les veines et les artères, ce qui augmentait le risque de formation de caillots sanguins et de maladies cardiaques. Ces groupes sont également plus susceptibles de développer des troubles de la coagulation sanguine, par exemple de type thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire. Et si le groupe O est mieux protégé des problèmes cardiaques, il y a une étude publiée dans la revue Critical Care qui suggère cependant qu'il n'est pas épargné dans certaines situations. Les résultats qui sont basés sur un groupe de 900 personnes montrent que les personnes de groupe O ont une mortalité 28% plus élevée que les autres lors de traumatismes graves. Un constat que les chercheurs ne s'expliquent pas encore pour l'instant. Alors, pas la peine de paniquer, hein, parce qu'il y a des facteurs comme l'alimentation, l'exercice physique, le niveau de pollution également, qui ont une véritable influence bien plus élevée sur l'état de santé que le groupe sanguin, bien évidemment. Donc, il faut prendre cette information avec énormément de recul, bien sûr. Mais bon, ça interpelle, même si le groupe, quand même, de personnes sur lesquelles l'étude a été menée, à savoir 900 personnes, c'est pas non plus clairement significatif, mais bon, voilà, ça donne une indication qu'il va falloir un petit peu plus creuser, mener des investigations un petit peu plus poussées pour voir si il y a une influence directe. Pardon. Excusez-moi, une influence directe du groupe sanguin sur l'état de santé, bien sûr. On verra plus tard. Autre chose, toujours au niveau médical, on va parler de la thérapie génique, hein, qui a déjà fait ses preuves pour traiter l'insuffisance cardiaque aiguë. Eh bien, la thérapie génique pourrait également améliorer l'insuffisance cardiaque avancée, ou ce qu'on appelle chronique également, d'après une nouvelle étude qui a été menée cette fois sur un modèle animal. Hein. Ça a été publié dans la revue Cardiovascular Research. Pour la première fois et contre toute attente, les chercheurs montrent qu'il est possible d'induire la multiplication des cellules cardiaques à un stade avancé de la pathologie et d'améliorer la fonction cardiaque avec certains effets bénéfiques sur les fonctions hépatiques, donc au niveau du foie, et les fonctions rénales au niveau des reins. L'idée actuelle est que l'insuffisance cardiaque chronique, un stade où le muscle cardiaque est devenu trop faible, est un point de non-retour. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas possible de stimuler un cœur dans cet état pour qu'il génère de nouvelles cellules cardiaques afin de se réparer et que seul un traitement palliatif est disponible pour les patients. C'est ce qu'explique le docteur Tamer Mohamed, professeur agrégé de chirurgie et qui est donc le principal auteur de cette étude. Cette nouvelle approche offre ainsi une lueur d'espoir contre cette maladie mortelle qui est la principale cause de mortalité aux États-Unis. La thérapie génique, en fait, ça permet de délivrer de manière spécifique des gènes qui favorisent la prolifération des cellules cardiaques, ce qui va générer un peu comme un nouveau muscle cardiaque. Après 4 mois de traitement, les animaux ont notamment montré une amélioration de la structure de leur cœur, notamment une réduction marquée de la taille de la cicatrice, ainsi que de leur fonction, enfin une amélioration également de leur fonction cardiaque. C'est ce qui a été montré sur ces animaux. Alors bien sûr, on est encore très très loin d'avoir une expérimentation sur l'homme, mais ça donne une piste assez intéressante qui montre un petit peu voilà, une finalité plutôt optimiste de l'utilisation de la thérapie génique. En tout cas, cette étude montre que la structure et la fonction du cœur est améliorée chez ces animaux. En l'occurrence, là, c'était sur des rats. Mais voilà, il va falloir bien sûr poursuivre un petit peu toutes ces recherches, bien évidemment. D'autres choses au niveau biologie. Je voulais que je récupère cet article. Je trouvais assez intéressant cet article qui est paru dans Science et Avenir du mois de février et qui explique, qui parle de cet oiseau. Sur sa gauche, il a le plumage vert typique d'une femelle de son espèce et sur sa droite, il a le plumage, c'est un oiseau, je vais y arriver, le plumage spécifique d'un mâle, c'est-à-dire le bleu incandescent. C'est un Fongara émeraude et constitue un cas très rare de ce qu'on appelle le gynandromorphisme bilatéral, c'est-à-dire des caractéristiques mâles d'un côté et des caractéristiques femelles de l'autre. C'est seulement la deuxième fois en un siècle qu'un cas est signalé chez cette espèce et chez d'autres passereaux, nous n'en avons recensé que quelques dizaines à travers le monde. C'est ce qu'explique Hamish Spencer, zoologiste à l'université d'Otago. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. Alors, il a été repéré pour la première fois en Colombie par un photographe amateur et cet oiseau a ensuite été observé et photographié à de nombreuses reprises entre octobre 2021 et juin 2023. Et donc, on voudrait savoir un petit peu plus et comprendre et avoir l'explication de ce phénomène. Alors, Hamish Spencer, qui est donc ce zoologiste, explique « Nous supposons qu'il résulte d'une division incomplète lors de la formation de l'ovocyte, celui-ci conservant deux chromosomes sexuels au lieu d'un, suivi d'une fécondation par deux spermatozoïdes différents. Il en a résulté un œuf à deux noyaux qui, lorsqu'il s'est ensuite divisé au cours du développement embryonnaire, a donné d'une part des cellules femelles et d'autre part des cellules mâles. » C'est quand même assez fascinant, quand même. Alors, c'est impossible de savoir si les organes reproducteurs internes de l'oiseau sont, eux aussi, ni mâles ni femelles. On ne sait même pas s'il est fertile, d'ailleurs. On ne va quand même pas le disséquer, le pauvre. Déjà, il faut réussir à le capturer. Mais, en tout cas, d'apparence externe, il a les deux caractéristiques. Et qu'en est-il à l'intérieur? Ça sera intéressant à savoir. Vous avez des photos de ce magnifique passereau bleu et vert. On retrouve dans Science et Vie, Science et Avenir. Enfin, je l'ai vu, puis vous pouvez le trouver sur différents sites, bien sûr. Et vous pouvez voilà, constater de par vous-même qu'il a ces deux caractéristiques. Et puis, dernière chose avant d'écouter un titre, on va s'intéresser aux bienfaits du jeûne nocturne, l'heure à laquelle sont pris les repas, pourrait avoir une influence sur le risque de développer des maladies cardiovasculaires. C'est ce que révèle une étude pilotée par l'INRAE et l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut de Recherche Médicale, et l'INRAE, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ils ont travaillé en collaboration avec l'Institut de Santé Globale de Barcelone sur les 18 millions de morts par an qu'elle occasionne dans le monde. Près de 8 millions seraient ainsi attribuables à l'alimentation, c'est ce qu'explique le Global Burden of Disease en 2019. C'est une étude assez générale qui avait estimé cela. Et parmi donc ces derniers, l'heure des prises alimentaires aurait elle-même un impact. En fait, en utilisant les données de près de 100 000 personnes et pendant plus d'une dizaine d'années, on a une équipe de recherche qui ont voulu analyser les associations entre les rythmes des prises alimentaires et les risques de maladies cardiovasculaires. Donc là, on est quand même sur une étude assez intéressante, sur 100 000 personnes, sur à peu près 13-14 ans. Donc, bon, ça donne comment dire, des indications qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être regardées avec un certain intérêt. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications et les résultats montrent l'importance de prendre son premier repas tôt à condition de ne pas prendre le dernier trop tard. Plus la durée du jeûne nocturne, c'est-à-dire le temps qui sépare la dernière prise alimentaire de la journée et de la première du matin est longue, mieux c'est. C'est ce que détaille Bernard Sourd, qui est responsable de cette étude. Cette période doit cependant être synchronisée avec notre horloge circadienne, rythmée bien sûr par le cycle jour-nuit. De fait, les pics de plusieurs hormones dépendent de cette horloge. Par exemple, la mélatonine, le cortisol et l'insuline sont différemment sécrétés selon le moment de la journée ou de la nuit et ont une influence sur le métabolisme. Ainsi, l'étude suggère-t-elle de prendre son petit déjeuner le plus tôt possible vers 8 heures et d'éviter de manger tardivement après 21 heures. En effet, une personne qui a pour habitude de manger pour la première fois à 9 heures aurait 6% de risque en plus d'avoir une maladie cardiovasculaire qu'une personne qui a l'habitude de se sustenter à 8 heures. Quant à la dernière prise alimentaire de la journée, manger après 21 heures est associé à une augmentation de 28% du risque de maladie cérébrovasculaire, comme les AVC bien sûr, par rapport à une dernière prise alimentaire avant 20 heures, et en particulier chez les femmes. Donc, cette étude voilà, explique qu'il faudrait prendre son premier repas tôt et ne pas prendre le dernier trop tard. C'est cette étude qui est assez intéressante par rapport à, comment dire, au panel de personnes qui ont participé à cette étude. Voilà, donc ça mérite d'être un peu affiné, bien évidemment, mais ça donne des indications plutôt intéressantes. Allez, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite. On va écouter Naïssam Jalal sur l'antenne et on se retrouve juste après, toujours pour continuer à commenter l'actualité scientifique. Thank you. C'était le rituel de la forêt par Naïssam Jalal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique, et la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net bien sûr pour ceux qui nous écoutent sur internet. On continue de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et cette annonce qui est quand même assez troublante concernant les les microplastiques, hein. On en a partout, au fond des océans, au sommet des montagnes et sur ce qu'il reste des calottes polaires. Les microplastiques sont partout, même à l'intérieur de nous. L'environnement dans son ensemble et les êtres qui y vivent sont pollués par ces minuscules fragments dérivés d'une multitude de produits que nous utilisons au quotidien, comme les emballages plastiques, les revêtements, mais aussi les cosmétiques et les fibres textiles. Bref, il y en a partout, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre santé et celle des écosystèmes, à tel point qu'il a été suggéré que ces particules qui s'accumulent dans les sédiments au fond des lacs et des océans, eh bien, ces particules soient utilisées comme marqueurs temporels pour dater ce qu'on appelle le début de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette période géologique qui marque la mainmise des humains sur la planète. Et la production de plastique, elle n'a véritablement pris son essor qu'au début des années 1950. Et donc, on peut se dire que dès qu'on les voit apparaître au niveau des sédiments, ça permet un petit peu de donner un point de repère sur le temps géologique. On a observé une augmentation drastique de la quantité de microplastiques dans les sédiments déposés à partir de 1950, ce qui est là totalement logique, bien évidemment. Sauf que cette pollution ne semble pas être restée sagement dans son niveau stratigraphique, c'est-à-dire les différentes couches. Et donc, à partir du moment où on arrive aux années 1950, eh bien la couche qui est en train de se produire, c'est celle où il y a notamment l'apparition des microplastiques. Eh bien, ce n'est pas le cas, et c'est ça qui est vraiment troublant. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Science Advances, qui révèle en effet la présence de microplastiques dans des sédiments qui datent d'avant 1950. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les plus petites particules de microplastiques auraient la capacité de migrer à travers les couches sédimentaires plus vieilles que celles de leur propre dépôt. C'est-à-dire que c'est un polluant au niveau spatial, au niveau géographique, on va dire, et ça devient aussi un polluant à l'échelle de la temporalité, à l'échelle du temps. Enfin, ça devient quand même assez troublant, parce que, ça va être impossible de pouvoir dater, finalement, de se dire qu'à partir du moment où on a la présence de microplastiques dans les sédiments, on est à partir des années 1950. C'est faux, parce que du coup, ça va même carrément polluer les couches encore plus profondes et donc beaucoup plus anciennes. C'est totalement aberrant, et les scientifiques n'en reviennent pas. Ça fait beaucoup parler dans le milieu, justement, scientifique qui travaille sur ces sujets-là, parce qu'une observation qui montre que les microplastiques ne peuvent donc pas être utilisés comme marqueurs temporels fiables pour dater le début de l'Anthropocène au niveau géologique, eh bien, cette observation le confirme, et c'est assez troublant. Ça pollue, c'est infernal. Ça devient quand même... Oh, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge depuis le début, je suis désolé. Ça devient vraiment très inquiétant, et là, c'est encore une illustration, mais totalement affolante, de cette pollution aux microplastiques. Alors, on va continuer à parler de l'actualité scientifique. J'ai tellement de feuilles sur le bureau du studio que je ne m'en retrouve plus du tout. On a constaté, c'est plutôt l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni qui a constaté que la structure des papilles gustatives et tactiles sur la langue sont uniques pour chaque individu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les empreintes digitales. L'imagerie en microscopie 3D de plus de 2000 langues a servi à nourrir un modèle d'intelligence artificielle qui révèle que ces empreintes sont non seulement singulières, mais conditionnent les variations dans la perception des saveurs et des textures des aliments d'une personne à l'autre. Nos papilles gustatives sont uniques. Alors de là à se dire que ça va être un marqueur pour repérer une identité, bon, on n'en est pas encore à ce point-là, mais en tout cas, on n'avait jamais vu cela, et c'est totalement récent. On parlait d'intelligence artificielle, et on en parle très très souvent dans cette émission, et là, on va encore en parler avec cette nouvelle classe d'antibiotiques contre des bactéries spécifiques, notamment le staphylocoque doré. Ces bactéries qui sont résistantes aux médicaments, eh bien, une nouvelle classe d'antibiotiques vient d'être découverte grâce à l'intelligence artificielle. Une première depuis 60 ans, selon une étude américaine publiée dans la revue Nature. L'équipe a d'abord testé les effets de plus de 39 000 composés sur ce staphylocoque doré et sur trois types de cellules humaines pour évaluer leurs propriétés antibiotiques et leur toxicité. Les résultats de ces tests ont permis justement de donner de l'information à l'intelligence artificielle. L'algorithme a alors passé en revue 12 millions de substances disponibles dans le commerce et ça a permis d'identifier 280 composés pertinents. Les tests en laboratoire ont retenu deux candidats issus de la même classe qui, chez la souris, sont parvenus à diviser par 10 la population de ces bactéries staphylocoques dorées. Notre modèle ne nous dit pas seulement quelles substances ont un effet antibiotique, il nous montre aussi pourquoi leur structure chimique leur donne cette propriété. C'est ce qu'explique Felix Wong, qui est donc chercheur au Broad Institute, c'est au MIT, le fameux Institut de Technologie du Massachusetts aux États-Unis, bien sûr, et qui est le principal auteur de cette publication. Mais voilà, une intelligence artificielle qui est à l'origine d'une nouvelle classe d'antibiotiques. Et bah, c'est assez intéressant de voir un petit peu l'utilisation plutôt utile et efficace de l'intelligence artificielle dans ce cas-là. Mais ça va être aussi assez intéressant de voir un petit peu les avancées qu'il peut y avoir grâce à l'intelligence artificielle. Mais comment contrôler celle-ci, ça c'est autre chose. Par exemple, il y a une analyse aussi par l'intelligence artificielle de 5000 protéines qui montre que chaque organe libère dans le sang un ensemble de protéines caractéristiques de son âge biologique. Donc l'intelligence artificielle permet justement d'accélérer un petit peu certaines études parce qu'on est sur un travail de données assez conséquente et ça permet à l'intelligence artificielle d'avoir, si elle est bien paramétrée, d'avoir des résultats totalement pertinents. La Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable à l'utilisation d'un test salivaire efficace à 95% pour diagnostiquer l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire de l'utérus. Et donc, voilà, on est sur un résultat assez positif et assez intéressant. Et enfin, une autre étude explique que plus de 80% des fumeurs opérés d'un cancer du poumon dépisté à un stade précoce étaient encore en vie 20 ans plus tard. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle à partir du moment où on a un dépistage assez rapide et assez précoce. On va terminer cette émission avec cette question que je voulais, que j'ai perdue. Si, voilà, je voulais savoir, on s'est toujours demandé, des fois on se pose des questions, est-ce qu'il vaut mieux être sec ou mouillé lors d'un orage? Ah, je vous laisse le temps de réfléchir, de trouver la réponse. Parce que on n'en sait trop rien, eh bien, bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui ont peur d'être frappés par la foudre, s'asperger la tête d'eau de pluie peut augmenter les chances de survie de 90%. C'est un groupe de scientifiques qui a construit deux modèles de têtes humaines en trois dimensions qui reproduisent les caractéristiques réelles de la conductivité électrique sur la base de données spécifiques justement au corps humain. Ce sont les chercheurs de l'université de technologie d'Ilmenau, c'est en Allemagne, qui ont soumis ces têtes spécifiques et ils les ont soumis à des courants électriques solides censés imiter les coups de foudre au sens propre du terme, des coups de foudre directs. Résultat, les crânes des mannequins imbibés d'eau ont été moins endommagés et moins exposés au courant électrique interne. Cette exposition cérébrale réduite, combinée à des blessures physiques moindres, pourrait augmenter les chances de survie d'une personne mouillée de 70 jusqu'à 90%. Alors, ça intrigue un peu, parce qu'on n'aurait pas eu le réflexe d'associer l'eau et l'électricité. La peau mouillée pourrait limiter l'exposition du corps au courant électrique par rapport à la peau sèche. Il y a des études antérieures sur des animaux qui avaient déjà montré que l'humidité augmentait le taux de survie à la foudre. Mais là, avec cette étude, c'est la première fois qu'une équipe de chercheurs se concentrait sur la manière dont l'humidité de la surface peut modifier la trajectoire de la foudre sur une tête d'homme. Le film d'eau agit comme un revêtement protecteur. C'est ce qu'a déclaré René Matsch, qui est le principal auteur de cette étude. Il ajoute qu'il est plus sûr de trouver un endroit protégé et de se faire aussi petit que possible quand on est sous un orage. Les coups de foudre ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont capables de délivrer des courants de plus de 200 kA, soit bien plus que la puissance nécessaire pour tuer un humain. Ce qu'il faut retenir donc de cette expérience, c'est que danser sous la pluie lors d'un orage a beau être encouragé par les scientifiques, eh bien, il rappelle quand même que le meilleur moyen de survivre reste de ne pas être frappé du tout par la foudre et donc d'éviter de se retrouver sans abri en plein orage. Mais donc voilà, si il y a de l'eau sur votre corps, eh bien, cela apporterait une protection supplémentaire. Nous sommes dans une pratique que je vous déconseille bien sûr de faire en conditions réelles. Mais vous êtes grand, vous êtes intelligent et vous êtes consciencieux, donc vous ne le ferez pas bien évidemment, ce qui vous permettra de nous retrouver samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. Merci de votre fidélité et de votre attention. Et d'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite et d'avoir la possibilité de récupérer tous les podcasts, bien sûr, sur le site internet de Graphite. Bonne journée à tous, à samedi prochain, à bientôt, au revoir.